Radio Prague, les informations.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Alexis Rosenzweig au micro pour le bulletin. Voici les titres. Le ministère des Transports retire certaines demandes de subventions de l'Union européenne. La première grève totale du visage, dirigée par un médecin tchèque à Boston, semble être un succès. Et puis du sport avec du hockey sur glace et la République tchèque qualifiée pour les quarts de finale. Ce sera mercredi contre les États-Unis. Le ministère tchèque des Transports a retiré des demandes de subventions pour les constructions fluviales et routières pour 110 milliards de couronnes, quelque 4,4 milliards d'euros. Une information du site aktualnie.cz. Selon la même source, ce serait une réaction à un avertissement de l'Union européenne ayant prévenu le ministère tchèque qu'elle n'accorderait pas de subventions de projets surévalués ou douteux. Il s'agirait notamment du projet de construction du pont de chemin de fer dans la ville de Kolín. Selon l'attaché de presse du ministère des Transports, Jakub Taczynski, la décision de retirer les demandes de subventions serait une mesure préventive, car le ministère désire réexaminer ses projets. Le premier Américain à avoir bénéficié d'une greffe totale du visage a déclaré lundi qu'il s'était bien approprié à sa nouvelle apparence lors de sa première apparition publique. Portant des lunettes de soleil et une barbichette noire, Dallas Wins, 25 ans, est apparu lors d'une conférence de presse aux côtés des médecins qu'il avait opérés au Brigham and Women's Hospital de Boston, des médecins dont Bohdan Pomahach, le médecin tchèque qui a dirigé l'opération. « Mon visage me paraît naturel, comme si c'était devenu le mien », a déclaré Dallas Wins, tout en reconnaissant que certaines parties de son visage restaient engourdies et qu'il devait continuer sa rééducation pour reconstruire ses fonctions nerveuses. « Je ne pourrai jamais exprimer la portée de ce qui a été fait, de ce qu'on m'a donné », a-t-il ajouté, en remerciant la famille du donneur qui souhaite rester anonyme. On passe au sport et je vous disais en titre du hockey sur glace en ce moment, et c'est en Slovaquie que se dispute le championnat du monde. Et la République tchèque a battu, vous le savez, l'Allemagne 5-2 lundi à Bratislava et disputera ce mercredi après-midi le premier quart de finale. Ce sera contre les États-Unis. La municipalité de Prague a décidé pour l'occasion de faire installer un écran géant sur la place de la vieille ville. Et si la République tchèque gagne et se qualifie pour les demi-finales, l'écran géant restera en place jusqu'à dimanche pour voir les coéquipiers de Jaromír Jágr se battre soit pour une médaille d'or, soit pour une médaille de bronze. De la météo avec une météo estivale en ce moment en République tchèque. Mercredi, le ciel devrait rester dégagé et les températures maximales varieront entre 22 et 26 degrés. Le retour des nuages, qui pourrait peut-être entraîner quelques orages, est annoncé à partir de jeudi. C'est tout pour les informations. Pour plus d'infos, comme d'habitude, vous les retrouvez sur notre site internet www.radio.cz, www.radio.cz/fr pour les informations en français. Et dans un instant, dans une poignée de secondes, c'est Václav Richter qui vous présente la suite du programme en français de Radio Prague. Quant à moi, je vous retrouve dans une dizaine de minutes pour l'émission Panorama, consacrée à un spectacle franco-tchèque autour des films de Jan Švankmajer.
Faits et événements en République tchèque.
La journée de l'Europe a été célébrée ces derniers jours à České Budějovice, Prague et à Ostrava. Le 19 mai prochain, le Conseil des ministres de la Culture de l'Union européenne devrait attribuer à Plzeň le titre de capitale européenne de la culture 2015. Au championnat du monde de hockey sur glace, l'équipe tchèque a poursuivi ce lundi sa série de victoires en battant l'Allemagne et en se qualifiant pour les quarts de finale. Quels sont les thèmes de ce tour d'horizon de l'actualité tchèque que nous avons intitulé « Faits et événements » La deuxième partie de notre émission sera réservée à la rubrique « Panorama » dans le cadre de laquelle nous vous parlerons du spectacle intitulé « Les chants magnétiques » de Jan Švankmajer, spectacle qui sera présenté prochainement à l'Institut français de Prague. Tel est donc le programme qui a été préparé pour vous par la section française de Radio Prague. Merci de rester avec nous. La représentation de la Commission européenne en République tchèque organisait ce lundi plusieurs événements dans tout le pays pour célébrer la journée de l'Europe. À cette occasion, des programmations musicales censées illustrer la diversité et la richesse des cultures européennes étaient proposées au public samedi 7 mai à České Budějovice et ce lundi à Ostrava et Prague. Dans cette dernière, les festivités ont eu lieu sur la place de la Vieille Ville où des exposants représentant diverses ambassades distribuaient des prospectus touristiques ou régaler les passants de leurs mets nationaux. Pierre Maignan.
Cette journée commémore la déclaration sur l'Europe prononcée par Robert Schuman le 9 mai 1950 et par laquelle il appelait la France et l'Allemagne à mettre en commun leur production de charbon et d'acier, posant ainsi les bases de la réalisation d'une fédération européenne. Près de 50 ans plus tard, il s'agit de continuer à promouvoir l'idée européenne dans un pays récemment entré dans l'Europe et qui doute parfois des bienfaits de cette construction. Le festival, organisé annuellement depuis 4 ans, proposait un programme assez complet que nous détaille Petr Vidjanský, le coordinateur de l'événement.
Toute la journée, l'ensemble du festival se propose de célébrer la journée de l'Europe, plus précisément de l'Union européenne. Le programme est principalement musical, mais il y a également sur place de nombreux stands. Il y en aura en tout 18 et 18 ambassades seront représentées. On a aussi un programme pour les enfants avec notamment du théâtre.
Les représentants des ambassades pouvaient ainsi présenter la culture de leur pays à travers des dégustations de spécialités culinaires, des distributions de brochures touristiques ou encore des démonstrations de musique traditionnelle. Le tout dans une ambiance détendue et sous un joli ciel printanier. Fatih Akal, le premier secrétaire de l'ambassade de France, semblait ravi du déroulement de cette journée et aimait à rappeler que les Français et les Polonais seraient les étrangers préférés des Tchèques. La représentante de l'ambassade du Luxembourg, Alena Velichkova, animait un stand proposant quelques dépliants touristiques sur son pays. Elle pense que ce type d'événement donne une bonne opportunité de communiquer sur l'Europe.
En fait, aujourd'hui, on célèbre l'anniversaire de l'Europe. Et comme, à mon avis, il faut toujours diffuser l'information sur l'Union européenne en République tchèque, la représentation de la Commission européenne a décidé d'organiser ce type d'événement où on présente les différents pays de l'Union européenne.
Dans un pays où les réserves sont nombreuses à l'égard de cette construction européenne, on comprend l'importance que revêt ce type d'événement. Le président Václav Klaus refuse ainsi d'arborer le drapeau européen à côté du drapeau tchèque au château présidentiel et fait régulièrement le parallèle entre la bureaucratie européenne et celle de la défunte URSS. Un sondage effectué en fin d'année dernière montrait par ailleurs que 70% des sondés restaient attachés à la couronne tchèque et ne souhaitaient pas changer de monnaie. Quel que soit le crédit donné à ce genre d'enquête, il est vrai que beaucoup de Tchèques sont méfiants vis-à-vis de l'Union européenne. Alena Velichkova propose une hypothèse expliquant ce fait.
Bon, je dirais que peut-être c'est le caractère principal des Tchèques, ils sont sceptiques en général. Donc eurosceptiques, ça va avec.
L'un des buts de la manifestation était donc de montrer en quoi l'Union peut rassembler les peuples et leur ouvrir de nouveaux horizons. C'est ce que nous a expliqué Vít Nejedlo, le président de l'Eurocentre à Prague.
Il est vrai que certaines personnes ont des positions parfois assez réservées, mais en même temps, quand les Tchèques voient que cette union peut apporter quelques solutions, quand ils en voient les conséquences pratiques, alors au contraire, ils comprennent l'intérêt de travailler ensemble et les bénéfices qu'ils peuvent en tirer pour eux-mêmes.
Sur scène, c'est le groupe Noise of Human Art, NOHA, qui était la tête d'affiche. Composée d'Allemands, d'un Tchèque, d'un Américain et d'un Brésilien, cette formation propose une music world très rythmée. L'interculturalité des groupes proposés donnait une autre idée de la richesse qui peut naître de la diversité. Les touristes et les passants paraissaient en tout cas très satisfaits. Une satisfaction que ne partageait sans doute pas la dizaine de manifestants réunis sur la place Venceslas pour protester contre l'éventuelle future adhésion du pays à l'euro.
« Le 19 mai prochain, le Conseil des ministres de la Culture de l'Union européenne devrait attribuer à Plzeň le titre de capitale européenne de la culture 2015. À l'occasion de la Journée de l'Europe, une conférence internationale s'est tenue à Plzeň les 9 et 10 mai, une conférence ouverte au public, et qui a accueilli des représentants des anciennes et futures capitales européennes, le ministre de la Culture Jiří Besser, le maire de Plzeň Martin Baxa, ainsi que les ONG et les entreprises de la région. Le ministère de la Culture s'est engagé à accorder à Plzeň entre 2012 et 2015 une contribution financière de 100 millions de couronnes, près de 4 millions d'euros. Or, le budget initial et ambitieux du projet, évalué à 2,6 milliards de couronnes, environ 103 millions d'euros, risque d'être réduit. Les détails avec Magdalena Hrozinková.
Le projet Plzeň 2015 devait inclure la construction de nouveaux bâtiments du théâtre municipal et de la galerie régionale, ainsi que l'aménagement du centre culturel Světovar et du parc de loisirs Štruncové Sady. 8 mois après la désignation de Plzeň et de Mons en Belgique, capitale européenne de la culture 2015, il est presque certain que le projet de construction de la nouvelle galerie ne sera pas mené à bien d'ici à 4 ans, faute de moyens financiers et d'accord entre la ville et la région de Plzeň. Les organisateurs du projet Plzeň 2015 espèrent obtenir des subventions de la part de l'Union européenne. On écoute la directrice artistique du projet, Ivona Kreutzmanova.
Au niveau européen, ce projet vous donne la chance d'avoir le prix de Melina Mercouri qui ne représente que 1,5 million d'euros. Pour un grand projet de toute année, c'est pas trop d'argent vraiment. Et c'est vrai qu'on discute beaucoup comment entrer les autres programmes de l'Union européenne avec les capitales européennes de la culture, parce que ça touche sûrement tous les domaines de la vie de la ville et de la région. Et j'espère qu'on va trouver beaucoup plus de solutions pour revitaliser toute la région.
Une partie du projet tient particulièrement à cœur à Ivona Kreutzmanova. C'est l'aménagement d'un centre culturel dans l'ancienne brasserie Svetozor.
C'est un projet de base. Pour moi, ça peut montrer pour d'autres villes en Tchéquie et en autre partie d'Europe qu'on peut utiliser les espaces industriels, l'ancien édifice qui a servi l'industrie, dans ce cas-là à la bière, bien sûr, pour l'utilisation culturelle. C'est une animation, revitalisation qui veut conduire les habitants et les artistes à Plzeň à faire des projets qui sont en liaison avec les arts professionnels, les arts vivants et le travail pour la communauté, l'éducation, le travail avec les jeunes, avec les seniors, avec les minorités aussi, disons d'autres nationalités. Il y a 10% des étrangers qui vivent à Plzeň. Et tout ce mélange qui peut être dans ces édifices, parce que c'est un complexe des édifices, peut créer un exemple qui existe très bien en France. C'est l'exemple qui a été créé par l'île 2004 de Maison Folie, par exemple. Et ce sont des modèles qui nous inspirent énormément et qu'on veut quand même apporter dans notre partie d'Europe et inspirer les autres mairies, les autres partenaires à l'Europe de l'Est.
Et donc, dans cette brasserie, les travaux ont déjà commencé ?
Oui, on a utilisé la brasserie aussi pour la visite de la jury internationale en septembre l'année passée. Maintenant, on est en discussion très forte autour d'utilisation pendant le temps de préparation de cet espace. Dans 2 ans, on devrait déjà faire la reconstruction et la mairie a déjà promis tout le budget d'investissement. Et après ça, 2013, j'espère qu'on aura déjà l'espace reconstruit, qu'on peut utiliser en 2014 facilement pour toute la préparation de projet et montrer que ça peut marcher beaucoup plus long terme après 2015.
C'était Ivona Kreutzmanova, directrice artistique du projet Plzeň, capitale européenne 2015. Plus de détails sur le site internet www.plzeň2015.eu. La République tchèque a battu l'Allemagne 5-2 lundi soir à Bratislava pour son dernier match de groupe comptant pour les huitièmes de finale du championnat du monde de hockey sur glace. Invaincu en 6 matchs depuis le début du tournoi avec la meilleure attaque et la meilleure défense, les Tchèques affronteront les États-Unis en quart de finale mercredi. Un match pour lequel les joueurs d'Alois Adamczyk endosseront le costume de favori, mais qui n'est pas sans rappeler de mauvais souvenirs à certains d'entre eux et à leurs supporters. Guillaume Narguet.
En 2004, ce sont en effet les États-Unis qui avaient mis fin au rêve de Jaromir Jagr et de ses coéquipiers d'être sacrés devant leur public. Alors que le mondial était organisé en République tchèque et que tout un peuple attendait un titre, l'équipe nationale, grande favorite du tournoi et également invaincue comme cette année, avait été sortie à la surprise générale dès les quarts de finale à l'issue des tirs au but. À Prague, une fois la défaite consommée, la place de la Vieille-Ville, sur laquelle avaient été installés des écrans géants, s'était vidée en quelques minutes de ses milliers de supporters pour se transformer en une immense décharge de débris de bouteilles et de papier gras. 7 ans plus tard, les deux équipes se retrouvent dans les rôles qui étaient déjà les leurs à l'époque. La République tchèque n'a encore concédé aucun point à ses adversaires depuis le début du mondial et produit assurément un des plus beaux hockey de toutes les équipes présentes, tandis que les États-Unis, plus laborieux, se sont qualifiés en terminant à la 4e et dernière place qualificative de leur groupe en 8e de finale. Mais avant de penser à ce quart de finale couperé, puisqu'à élimination directe, les Tchèques ont donc répété leur gamme contre l'Allemagne lundi dans une salle de Bratislava, une nouvelle fois prise d'assaut par leurs supporters. Seul point noir, comme lors de la victoire, 3-2 contre la Russie dimanche, les Tchèques ont terminé le match avec 2 nouveaux joueurs blessés, ce que regrettait le défenseur Karel Rachunek.
Nous nous sommes efforcés de jouer tout le match sur un bon rythme pour que personne ne se blesse et pour bien nous préparer en vue du quart de finale. Malheureusement, nous finissons une nouvelle fois avec des blessés dont la présence sur la glace mercredi est incertaine. Pour gagner un tournoi comme le mondial, il faut que tous les éléments soient réunis. Il faut certes bien jouer, mais il faut aussi de la réussite. Pour l'instant, nous jouons plutôt bien, mais nous avons déjà plusieurs blessés. Cela peut nous rendre les choses beaucoup plus difficiles.
En attendant de penser à la finale, malgré le temps estival qui règne ces derniers jours, ils seront des millions de Tchèques installés devant leur petit écran ou dans les brasseries mercredi après-midi à l'heure du goûter pour suivre ce quart de finale contre les États-Unis. En espérant que le triste scénario de 2004 ne se reproduise plus, en cas de victoire, la République tchèque retrouverait alors en demi-finale le vainqueur du match entre la Suède et l'Allemagne.
Fin de ce tour d'horizon de l'actualité tchèque. Les champs magnétiques de Jan Švankmajer, c'est le nom du spectacle qui se déroulera les 11, 12 et 13 mai à l'Institut français de Prague. Durant la projection enchaînée de 5 films d'animation du cinéaste tchèque, des musiciens de l'ensemble Prague Moderne joueront les musiques spécialement écrites pour l'occasion par le compositeur et performeur français François Saran, qui a également fait appel à des bruitaises professionnelles pour une création en forme d'hommage au cinéaste tchèque. Alexis Rosenzweig a assisté à la première répétition.
What I would like to try is a sort of augmented soundtrack, but not with pitches, not with melody, sound, but with sound from you sound guys, so that it would merge the soundtrack and the instrument sound.
Séance de déchiffrage et première répétition du spectacle intitulé « Les chants magnétiques de Švankmajer ». Le compositeur français François Saran est entouré de musiciens de l'ensemble tchèque Prague Moderne, des musiciens qui seront devant et sur la scène pendant et entre les projections de 5 courts-métrages du réalisateur tchèque Jan Švankmajer.
Je m'appelle François Saran et je suis compositeur, artiste visuel, metteur en scène, et je suis à Prague pour réaliser un spectacle à partir des films de Jan Švankmajer, dont j'ai refait, si on peut dire, une bande son ainsi que de la musique originale sur des textes qui vont, la musique qui va être interprétée entre les films.
Pourquoi Švankmajer déjà et pourquoi le choix? Je crois qu'il y a 5 courts-métrages de Švankmajer, pourquoi ce choix?
Alors, pourquoi Švankmajer? D'abord parce que c'est une passion que j'ai depuis longtemps, son cinéma. D'ailleurs, l'œuvre de Švankmajer, le travail de Švankmajer en général. Pour beaucoup de raisons, parce qu'il est surréaliste, parce qu'il ne fait pas que du cinéma, mais il touche à beaucoup d'autres domaines, et le sujet même de ses films m'intéresse. Pourquoi 5 films, le nombre de 5 doit être juste envisagé comme une proportion qui m'a semblé pertinente pour faire une soirée. Et quant au choix des films proprement dit, c'est justement par rapport à la thématique. Donc j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait un fil, comme si on avait finalement un long métrage en 5 sections.
De la musique seulement entre les films ou aussi pendant les films?
Surtout pendant les films. Pas énormément de musique d'ailleurs, parce qu'il y a aussi 2 bruiteuses qui vont donc faire un environnement sonore à certains des films. Donc j'ai pris aussi le parti de mettre de la musique dans les films où il n'y en avait pas au départ, mais aussi inversement de rajouter des sons d'ambiance dans les films où il n'y avait que de la musique.
C'est entièrement composé par vous ?
Oui, entièrement.
Quel genre de musique, si on peut essayer de décrire ?
C'est assez difficile à dire. En fait, j'ai composé surtout une musique, un thème, un motif que j'ai développé et sur lequel j'ai appliqué beaucoup de variations. Selon les films et selon les différents moments des différents films. Encore une fois, pour avoir l'idée que, même si ce sont 5 films différents, c'est finalement un seul artiste derrière et une seule thématique qui se déploie de manière diverse.
Alors vous l'avez dit, 2 bruiteuses, et quels seront les instruments sur scène ?
Alors on a une contrebasse, un violon, un piano, une clarinette et un percussionniste.
Meilleur pour les auditeurs français qui connaîtraient pas, c'est quelque chose d'unique.
Je dirais que c'est peut-être l'un des premiers cinéastes à avoir travaillé systématiquement sur le mélange entre l'animation et les prises de vue réelles. Et d'autre part, il est un petit peu à l'origine du théâtre d'objets, c'est-à-dire que quand il utilise des marionnettes, ce qui arrive, ce sont pas toujours des marionnettes classiques avec du fil, mais ça peut être des objets animés sous forme de marionnettes. Et là-dessus, il a eu beaucoup de successeurs. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé comme lui dans cette direction-là après. Pour ce qui est des influences ou des gens qui pourraient se réclamer de lui, il y a deux grands cinéastes qui se réclament de Schwenkmayer. Il y a Tim Burton et Terry Gilliam. Donc, effectivement, quand on voit, par exemple, les Monty Python, il y a l'animation de Terry Gilliam est très influencée par celle de Schwenkmayer. Et quant à Tim Burton, il y a aussi une thématique commune.
C'est chouette d'être à Prague pour commencer la tournée avec ce spectacle.
Prague, je suis habitué, j'y viens très souvent, j'y vais au moins 3 fois, 4 fois par an. Et donc j'aime toujours être à Prague. Et commencer ce travail-là à Prague, c'est naturel dans la mesure où Schwenkmayer est un artiste pragois. Donc c'est un double plaisir.
Après, qu'est-ce qui se passe avec ce spectacle ?
Eh bien, on va le jouer en France et puis on va le tourner à droite à gauche dans des festivals de musique et de cinéma.
Auteur d'un documentaire sur Jan Schwenkmayer, Bertrand Schmitt assiste également aux répétitions. C'est lui qui a présenté le cinéaste tchèque au compositeur français.
J'ai rencontré François Sarran quand il était venu à Prague pour la présentation d'une de ses œuvres au festival des premières de Prague. Et j'étais un petit peu l'accompagnateur de François. Et dans la discussion, nous sommes rendus compte que François connaissait le travail de Jan Schwenkmayer, qu'il était un grand admirateur de l'œuvre de Jan Schwenkmayer. Et il a demandé donc s'il pouvait d'abord le rencontrer, ce qu'il a fait. François donc a rencontré informellement Yann. Et puis s'il pouvait faire un entretien avec Yann pour la revue Mouvement, qui est une revue française, sur le dernier film de Jan Schwenkmayer. Et puis au fur et à mesure du temps, François venant assez souvent à Prague, il a émis l'idée, la proposition de faire un spectacle autour des films de Jan Schwenkmayer à partir d'une composition qu'il voulait faire. Jan Schwenkmayer, sur le principe, n'aime pas trop ce genre d'exercice. Mais comme il avait rencontré François, qu'il avait sympathisé avec lui, qu'il voyait que François connaissait bien son travail, il s'intéressait beaucoup à ce qu'il faisait, il a donc donné son accord de principe en donnant une carte blanche à François pour faire une composition, un rebruitage, une remise en son de ses films.
Et il sera là pour la répétition générale, je crois.
Alors normalement, il doit venir pour la répétition générale, oui, en sachant que ça sera la surprise, puisqu'il n'aura jamais, il n'aura pas vu, il n'aura pas entendu du tout le travail qui aurait été fait avant.
Alors on voit ici deux bruiteuses avec pas mal de matériel pour faire les sons qui vont accompagner également pendant les productions de films. Qui sont ces dames, d'où viennent-elles?
Bah, elles viennent du milieu, elles viennent du cinéma. Elles sont toutes deux de vraies bruiteuses professionnelles qui travaillent habituellement pour le cinéma et d'ailleurs qui ont travaillé aussi avec Jan Schenkmeyer, donc ils connaissent également l'univers de Jan Schenkmeyer. Et comme vous pouvez, alors, les auditeurs peuvent pas le voir, mais c'est assez impressionnant. On voit comment travaillent des vrais bruiteurs de cinéma. À l'époque où tout n'était pas samplé, où les sons n'étaient pas forcément synthétiques, voilà. Donc, on a un moulin à café, une moulinette, une poire à eau, une hache, un maillet, divers petits balais, des casseroles. Elles arrivent à reproduire à peu près tous les bruits à partir de ces accessoires improbables.
Le spectacle Les Champs Magnétiques de Schwenkmayer, ce sera mercredi, jeudi et vendredi à l'Institut français de Prague, direction la France ensuite, avec une première date à Orléans, ce sera le 8 décembre prochain.
C'était donc Alexis Rosenzweig qui vous a présenté la rubrique Panorama. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos programmes sur www.radio.cz/fr.